Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza, Quentin Duchemin, Audrey Guélou.
Bonjour, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1 Écrire sur le web, enseigné à l'UTC par Stéphane Croza. Pour rappel, en WE1, on étudie le web sous plusieurs aspects. On attaque l'angle théorique des technologies du web avec des théories comme la raison computationnelle, la théorie du support. On apprend aussi à se servir d'outils du web, par exemple en mettant en ligne son site web. On aborde aussi des enjeux culturels et sociétaux et politiques du web. Et puis on aborde aussi quelques outils méthodologiques. Tout cela se retrouve sur librecours.net si vous avez envie d'aller voir les supports de WE1. Et en WE1, eh bien, les étudiants et les étudiantes réalisent un projet qui consiste à mettre en ligne un dossier thématique qui aborde une problématique technologique du web et qui contient des fiches de lecture, un article, une intervention radio, des interviews. Et donc, dans l'intervention radio, justement, il y a quelques instants, on a pu écouter celle de 4 étudiants qui nous ont présenté leur travail sur le thème de l'OSINT, donc l'Open Source Intelligence ou renseignement d'origine source ouvertes en français. Et on va continuer maintenant, on va terminer cet après-midi avec une quatrième présentation. Ce sera avec donc Mathis Bocquillon, Corentin Fressard, Elliot Sabag et puis Lilian Valin. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Vous avez choisi tous les quatre de réaliser votre dossier sur le thème de l'utilisation des médias sociaux pour la communication scientifique. Donc on va vous écouter tous les quatre nous présenter un exposé à ce sujet-là. Et puis les autres étudiants et étudiantes du TD sont sur Mattermost pour vous poser quelques questions que je vous relayerai donc au micro de Graphite. On va commencer par Corentin. Corentin, tu prends la main sur cette présentation. Tu vas nous commencer par une présentation générale des médias sociaux, les comparer, etc. C'est à toi.
Donc déjà, on s'est posé une question donc avec le sujet, une certaine problématique. On s'est dit dans quelle mesure la communication scientifique sur les médias sociaux est-elle un moyen efficace d'établir des dialogues des scientifiques vers les citoyens. Donc déjà pour commencer, je vais définir ce qu'est un média social parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde. Tout le monde confond un média social et un réseau social. Donc je vais aussi les comparer entre eux parce qu'il y en a plusieurs types de médias sociaux. Donc concrètement, c'est quoi un média social ? C'est une application web qui permet de partager du contenu, de publier du contenu intéressant, scientifique, divertissant, etc. Et donc ce qui fait le média social, c'est la technologie qu'il compose, l'interaction sociale entre le monde ou plusieurs personnes tout simplement, et la publication de nouveaux contenus qui aident à faire avancer l'humain en général. Donc voilà, il y a plusieurs types, comme j'ai dit, de médias sociaux. Il y a les réseaux classiques qui permettent de partager du contenu intéressant et divertissant comme ou des informations, des actualités comme Twitter, Instagram, YouTube ou encore Twitch. Mais il y a aussi des réseaux sociaux qui permettent de communiquer entre plusieurs personnes, donc comme WhatsApp, WeChat ou encore Discord, etc. Et après, il y a plus des médias sociaux qui sont orientés vers la science et les recherches scientifiques, donc la publication d'articles scientifiques, etc., comme on a pu en entendre parler, Google Scholar, Semantic Scholar ou ResearchGate. Donc là, vous allez entendre un audio de Michel Dubois, qui est donc un directeur de recherche au CNRS, qui parle dans une conférence à propos de la parole scientifique dans les médias, et en particulier dans les médias sociaux, avec comme thème abordé la médecine, l'infectiologie et l'épidémiologie.
Et c'est vrai qu'on voit que la parole scientifique sur des secteurs particuliers qui vont être présentés aujourd'hui a pris un poids d'ampleur quand même assez importante, assez inédite, un volume multiplié par 8, entre 8 et 10. Donc les mentions de notions d'infectiologie, d'épidémiologie, tout ça a pris une ampleur tout à fait considérable. Et c'est vrai qu'il y a un débat aujourd'hui sur le fait de savoir finalement quelles seront les conséquences de cette surexposition de la parole scientifique dans le long terme. Et donc on est aussi ici pour réfléchir à cette question. Et comme dans tout débat, il y a deux polarités qui sont clairement dessinées. Il y a d'un côté ceux qui sont sans doute un petit peu optimistes, et je pense pouvoir en faire partie en disant qu'il y aura sans doute des choses très positives qui vont sortir de cette surexposition de la parole scientifique, notamment en termes de pédagogie sur un certain nombre de domaines. On sait que la question des essais cliniques a été découpée en petites tranches fines pour, dans les médias pour essayer d'expliquer au mieux comment tout cela fonctionnait.
Et Voilà, donc ce que dit Michel Dubois, c'est quelque chose de très enrichissant, parce qu'il parle de plusieurs aspects de la communication scientifique à travers les médias sociaux. Donc il parle d'un aspect plutôt positif, puisque elle permet, les médias sociaux permettent de transmettre les informations et les actualités à grande échelle, de manière plus étendue que par les journaux télévisés, par exemple. Donc pour le sujet qu'il a abordé durant la conférence, donc ce qui est l'épidémiologie, l'infectiologie et la santé, c'est développé de manière 8 à 10 fois plus étendue. Donc c'est énorme, parce que c'est quelque chose qui permet de relayer des informations concrètes et intéressantes et qui peuvent être cruciales pour certaines personnes. Après, cependant, il faut adapter la communication scientifique au travers des médias sociaux, parce qu'il faut que ce soit plus digeste pour les gens qui ne sont pas forcément du milieu. Donc, comme il le dit, en découpant en plusieurs parties certains articles pour que ce soit plus simple à lire, en utilisant moins de termes techniques pour que ce soit accessible à tout le monde. Après, il ne faut pas non plus s'éloigner trop du but de l'article scientifique, qui est d'informer et de mettre en garde parfois. Voilà. Après, il y a aussi des points négatifs qui sont imposés par les médias sociaux, notamment par rapport aux fake news ou à la malinformation. Il y a souvent certains messages scientifiques qui sont mal transmis, ou pas forcément scientifiques, même d'actualité, qui sont mal transmis, parfois à cause de peut-être d'une blague de quelqu'un qui est mal compris par quelqu'un d'autre, et donc l'information se répand parce que les gens ne comprennent pas forcément. Ça peut aussi être notamment par rapport aux élections. Pendant les élections américaines, Twitter a dû prendre des actions contre Donald Trump parce qu'il publiait énormément de fake news. On est sur à peu près 35 000 interactions sur des publications avec des fake news, etc. Donc ça a touché énormément de monde. Et certaines personnes, du coup, ne vont pas vérifier les informations et donc relaient énormément de fausses informations. Après, il peut aussi y avoir une certaine surcharge d'informations, un trop d'informations. Comme l'a dit dans son article le site de réseautage et autorité scientifique, Madame Perdia Gouchkou et Gianacou, le web a eu comme résultat une surcharge informationnelle qui a provoqué une situation assez contradictoire entre, d'une part, l'offre abondante d'informations et, d'autre part, la difficulté d'orienter le lecteur pour rendre l'information visible. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a énormément de données scientifiques maintenant disponibles sur le web et parfois les utilisateurs n'arrivent pas à s'y retrouver et à trouver l'article intéressant, puisqu'il y en a trop, ils ne savent pas quoi chercher et qu'est-ce qui les intéresse. Donc maintenant, moi, c'est fini.
Merci Corentin, merci pour cette première mise en contexte. Alors, tu as commencé ta présentation en parlant donc de, en évoquant différents médias sociaux, et tu termines en nous parlant en effet de la surcharge informationnelle que l'on trouve aussi en se perdant un petit peu sur ces médias sociaux-là. Alors, pour essayer de sélectionner des contenus qui vont être, disons, véritablement prouvés scientifiquement au milieu de cette surcharge informationnelle que tu évoques, on peut être tenté de se tourner vers donc des médias sociaux spécialisés dans le partage de connaissances et de documents scientifiques. Et à part cette spécialisation thématique, disons, sur les connaissances scientifiques, est-ce qu'il existe d'autres différences entre les sites comme ResearchGate, que tu as mentionné, donc un site spécialisé dans le partage de connaissances scientifiques, et les médias sociaux plus généralistes comme Twitter, YouTube ou même aussi LinkedIn, qui est un petit peu plus tourné vers les réseaux professionnels. Voilà. En quoi est-ce que les interactions, les modes de communication, le fait d'avoir un profil ou pas, en quoi est-ce que tout cela c'est différent au-delà de cette spécialisation thématique sur la science?
Ce qui est très différent, c'est que d'une part, sur les médias sociaux classiques comme Twitter, n'importe qui peut discuter du sujet et donner son avis sur le sujet, là où par exemple sur ResearchGate, c'est plus les scientifiques entre eux qui se partagent leur avis, et donc ce qui permet de relayer l'information et de bien voir qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse, puisque les scientifiques entre eux peuvent se prouver le contraire ou si c'est vrai, si c'est faux. Et donc là où Twitter, comme j'avais dit, le partage de la malinformation est beaucoup plus simple, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas forcément du domaine, qui peuvent relayer les informations et qui ne vont pas forcément aller les vérifier. Là où sur des sites plus spécialisés, c'est des gens qui s'y connaissent et donc qui peuvent donner leur avis si les choses sont fausses ou si c'est vrai, ou etc.
D'accord, donc c'est au niveau de la valeur, tu veux dire, dans l'information, de ce qui est échangé.
Exactement. Ouais.
Sur ces différents types de médias sociaux. Ok, merci Corentin. On va passer à la partie d'Eliott. Eliott, tu vas aborder la diffusion d'articles sur les médias sociaux et tu vas te demander si ces articles-là atteignent les citoyens. Hein, votre intervention est à propos de la mise en dialogue entre scientifiques et citoyens via les médias sociaux. Donc, Eliott, tu es prêt? c'est à toi.
Bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler de la diffusion des articles scientifiques sur les médias sociaux auprès du grand public. Contrairement aux revues scientifiques évaluées par les pairs, les médias sociaux permettent à un public non scientifique d'accéder à des articles scientifiques et d'échanger sur leur contenu. C'est pourquoi de plus en plus de chercheurs choisissent de publier leurs articles sur les médias sociaux. Mais ces articles sont-ils réellement consultés par un public non scientifique? Pour commencer, voici une citation de l'article « The Role of Twitter in the Life Cycle of a Scientific Publication » rédigé par Darling, Schiffman, Côté et Drew en 2013. Je cite « Sur Twitter, une plateforme que les scientifiques utilisent souvent pour discuter de science entre eux, jusqu'à 40% des abonnés des scientifiques écologie et conservation peuvent être des non-scientifiques, des médias et des groupes environnementaux. Il semble donc que les articles scientifiques touchant certains sujets, comme l'écologie, se diffusent bien auprès du grand public. Ces articles causent des échanges importants qui peuvent parfois influer des décisions politiques. On peut par exemple citer l'interdiction de la chasse aux grizzlies en Colombie-Britannique et au Canada, suite à des débats entre citoyens effectués sur les médias sociaux après la publication d'un article scientifique. Mais la diffusion auprès du grand public semble moins importante pour d'autres sujets, comme la biologie. Nous avons étudié l'article « Identifying Diffusion Patterns of Research Articles on Twitter, a Case Study of Online Engagement with Open Access Articles » datant de 2019 et rédigé par Alperin, Gomez et Holstein. Ces chercheurs montrent que des articles scientifiques tirés de revues de biologie diffusées sur Twitter touchent à plus de 80% des communautés scientifiques. Puisqu'il s'agit d'universitaires ayant déjà des connaissances dans le domaine de l'article, le grand public ne contribue alors que peu dans les débats concernant ces articles scientifiques. On peut supposer, en s'appuyant sur les résultats de ces études, que la participation du grand public à un échange sur les articles dépend du thème de l'article et du média social sur lequel il est diffusé. Cet échange entre grand public et scientifique est possible, mais non systématique. Écoutons maintenant un extrait de l'émission « Les chercheurs, leurs publications et les médias sociaux » réalisé par Pierre-Jean Barlatier et diffusé sur Xerfi Canal.
L'usage des médias sociaux touche chaque sphère sociale et la communauté des chercheurs n'en fait pas plus exception. Les blogs, wikis et autres réseaux sociaux tels Facebook, Twitter, YouTube ou LinkedIn deviennent des outils de plus en plus prisés pour partager les résultats de leurs recherches avec le plus grand nombre. Pourtant, l'usage de tels outils par le monde académique était il y a encore peu jugé inapproprié, peu sérieux et fantaisiste par les tenants d'un savoir uniquement compréhensible par une élite d'initiés, défenseurs de l'icône de la tour d'ivoire universitaire. En fait, la communauté scientifique s'offusquait de la popularité grandissante de certains chercheurs largement fondée sur une réputation acquise sur les réseaux sociaux, au détriment de publications scientifiques significatives. En guise de point culminant de ce débat, le biologiste Neil Hall publiait en 2014 dans la revue scientifique Genome Biology un article qui proposait l'introduction d'un indice, baptisé indice Kardashian ou K-index, en référence à la célèbre personnalité médiatique Kim Kardashian, dont il estime que la notoriété surpasse largement le talent. Cet indice consiste à calculer le ratio du nombre total de followers sur Twitter d'un chercheur par son nombre de citations dans les revues académiques. Ainsi, un chercheur avec un K-index élevé a construit sa notoriété sur des fondations scientifiques faibles, alors qu'un indice peu élevé prouvera que ce chercheur est à contrario injustement méconnu.
Dans cette émission, Pierre-Jean Barlatier présente le concept de K-index. Il s'agit du ratio entre le nombre de followers d'un chercheur sur Twitter et le nombre de fois où ce chercheur a été cité dans les revues académiques. La nécessité d'utiliser un tel index suppose que les chercheurs ayant une notoriété académique importante ne sont pas les plus visibles sur les médias sociaux. La diffusion des articles scientifiques sur les médias sociaux auprès du grand public diffère donc de la diffusion auprès des communautés scientifiques. On peut alors se demander si le contenu scientifique consulté par les citoyens sur les médias sociaux est pertinent. Pour pallier à ce biais, Pierre-Jean Barlatier évoque dans la suite de l'émission l'utilisation de médias sociaux académiques comme ResearchGate, un thème qui sera abordé par Lilian par la suite. Ainsi, les articles scientifiques diffusés sur les médias sociaux sont accessibles au grand public, mais ils ne sont pas toujours consultés. Les échanges engendrés par ces articles ne sont pas représentatifs des travaux scientifiques les plus reconnus par la communauté académique.
Merci à toi, Elliot, pour cette partie sur la diffusion d'articles scientifiques sur les médias sociaux. Je pense qu'il y a plusieurs questions en attente. On va en commencer par une, je pense, qui rebondit sur l'extrait audio que tu nous as proposé. Jordan qui se demande pourquoi Twitter constitue la plateforme principale de diffusion scientifique devant d'autres médias sociaux. Alors, plateforme principale de diffusion scientifique, je me permets de reprendre Jordan, c'est vrai. Alors, principale, il nous faudrait quelques chiffres pour savoir si c'est la première plateforme de médias social pour où il y a de la diffusion de où il y a de la publication de la part de scientifiques, mais c'est vrai qu'on va retrouver des profils scientifiques sur Twitter et dans l'extrait que l'on a entendu, ce cas index est mesuré par rapport à Twitter. Est-ce que l'on sait pourquoi, en particulier cette plateforme là, a un tel succès de la part de scientifiques?
Elle est très utilisée par les scientifiques parce que déjà il y a une forte visibilité. Donc Twitter, c'est un réseau social qui regroupe 217 millions d'utilisateurs quotidiens. Ces chiffres proviennent de Twitter. Il est plus facile d'atteindre un grand nombre de citoyens en diffusant sur ce réseau social que sur d'autres réseaux traditionnels.
En effet, oui. Et puis c'est vrai que sur Twitter, on peut avoir donc beaucoup d'interactions rapidement par l'audience que l'on peut acquérir sur Twitter. Oui, tu as raison, c'est une bonne réponse, Elliot. Alors, je vais poursuivre avec un débat qui se fait un petit peu sur Mater Moss là en ce moment, puisque j'ai l'impression que ça froisse un petit peu les autres étudiants du TD de savoir que on va avoir des publications scientifiques diffusées sur les médias sociaux. On a cette question de la vulgarisation des articles scientifiques. Je sens cette opinion qui est de dire que, alors, si on diffuse sur les médias sociaux des connaissances scientifiques, des articles scientifiques, alors peut-être que ça réduit la valeur des connaissances produites, ça réduit la valeur de ce qui est publié. Qu'est-ce que l'on peut répondre à cela? Est-ce que publier sur des médias sociaux des contenus scientifiques, est-ce que ça veut dire que c'est du contenu scientifique à moindre valeur? Est-ce que ça réduit la valeur d'une connaissance scientifique, le fait de les transmettre sur les médias sociaux?
Pas nécessairement. Donc on peut déjà publier les articles tels quels, comme ils seraient publiés sur des revues scientifiques. Et cela permet surtout d'engendrer des débats. Donc on peut partir de faits scientifiques rigoureux et ensuite, en échangeant avec le scientifique, avoir une certaine forme de vulgarisation si des choses n'ont pas été bien comprises par les utilisateurs du réseau social.
En effet, voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a plusieurs étapes. Hein. On a un article scientifique qui va être revu par les pairs ou non, mais admettons un article scientifique revu par les pairs qui peut être en libre accès et qui va être ensuite rediffusé sur les médias sociaux. Et comme tu le dis, ensuite, ça peut permettre donc d'initier un débat sans pour autant réduire la qualité, la valeur scientifique de ces contenus-là. Pour discuter un petit peu de cet aspect. Très bien, on va passer à la suite. J'ai l'impression qu'on a passé quelques minutes à ce sujet. Merci Elliot pour cette partie. Lilian, on va te donner la parole pour nous parler de l'importance des médias sociaux pour la diffusion des articles scientifiques, et tu vas justement insister sur cette partie sur l'évaluation par les pairs. Tu es prêt Lilian? C'est à toi.
Pas de souci. Bonjour tout le monde, je vais vous parler de l'importance des médias sociaux dans la diffusion des articles scientifiques, mais avant ça je vais vous faire écouter un court extrait d'une conférence qui s'est tenue à l'Académie des sciences avec pour titre « Évaluation par les pairs, une nécessité et des problèmes » de Jean-François Bach.
La question suivante, c'est celui du choix des reviewers. C'est une question évidemment centrale, parce que je le disais, il y a très peu de reviewers à la fin, et donc s'ils sont mal choisis, ça peut être une catastrophe. Alors le choix des reviewers pose toute une série de questions, je vais brièvement les traiter pour ne pas dépasser mon temps. Il y a choisi le nombre, je disais, 2-3 souvent, c'est souvent pas assez, ça devrait être plus, mais pratiquement c'est difficile. Et d'ailleurs c'est tellement difficile que certaines revues, certains journaux demandent jusqu'à 10 reviewers, sollicitent 10 ou 12 reviewers pour être sûr d'en avoir 2 ou 3 à la fin, sans prendre forcément les meilleurs, ce qui est un vrai problème. Il y a également le problème du choix, bien sûr, de la qualité du reviewer. Le reviewer doit être compétent, doit être disponible, doit répondre relativement vite. Tout ça, ce sont des choses importantes. Et il y a vraiment une crise dans beaucoup de journaux pour trouver de bons reviewers. Et ça pose la question que j'évoquerai rapidement pour finir, du nombre d'articles qui circulent, du nombre de reviews qui sont demandés, ce qui est actuellement devenu extrêmement problématique.
Dans cet extrait, Jean-François Bach, médecin, biologiste et immunologiste français, nous parle de la complexité de faire publier un article scientifique dans une revue. Cela est notamment dû au problème qu'engendre l'évaluation par les pairs. Aujourd'hui, c'est la méthode la plus couramment utilisée pour vérifier une publication scientifique. Cette méthode consiste à donner la publication à d'autres scientifiques du même domaine afin qu'ils cherchent si l'article comporte des erreurs. Ensuite, si la publication est acceptée, elle sera publiée dans une revue. Sinon, l'auteur recevra les éléments qui comportent des erreurs afin qu'il puisse les corriger et retenter de se faire publier. Cependant, ce procédé comporte de nombreux biais, ce qui le rend imparfait. De plus, la marche à suivre est longue et elle ralentit la publication scientifique, car comme le dit Jean-François Bach, le nombre de reviewers n'est pas suffisamment élevé au vu du nombre de publications que les revues reçoivent. Tout cela pousse les scientifiques à trouver d'autres méthodes de publication. Plus rapides et avec moins de contraintes, les médias sociaux offrent aux chercheurs la possibilité de publier leurs articles en préprint, tout en ayant un retour de leur communauté et de leurs pairs rapidement. Cette façon leur permet d'être plus rapide à la publication de leurs recherches. Cependant, cette méthode comporte aussi certains problèmes, tels que la véracité des informations publiées, étant donné que les articles ne passent pas par un comité de relecture, ils ne sont pas vérifiés par d'autres scientifiques avant leur publication. Les médias sociaux offrent d'autres possibilités aux scientifiques. Ils permettent notamment d'aider à la communication entre les chercheurs eux-mêmes. Il existe deux types de médias sociaux, ceux qui sont à vocation académique comme ResearchGate et d'autres plus à vocation de divertissement comme Twitter. Aujourd'hui, ResearchGate représente plus de 20 millions de scientifiques à travers le monde. Ces chiffres proviennent du site de ResearchGate, ce qui permet de réunir une grande communauté scientifique autour de sujets divers. Contrairement à ResearchGate, Twitter est un média social généraliste qui n'a pas pour vocation principale de transmettre des recherches scientifiques. Cependant, avec ses 217 millions d'utilisateurs quotidiens, Twitter regroupe un grand nombre de scientifiques. Et 55% de leurs utilisateurs ont dans leur centre d'intérêt les sciences et les nouvelles technologies. Ces chiffres proviennent de Global Web Index et datent de 2014, ce qui montre la puissance de Twitter dans la communication scientifique. Les chercheurs ont aujourd'hui la possibilité de diffuser leurs documents de recherche sur de multiples plateformes en ligne, ce qui leur permet, s'ils le veulent, de mettre leurs articles en libre accès. Cela afin de toucher un public bien plus large et international. Ils ont donc la possibilité de participer à la libération des connexions sur le web. Cette nouvelle possibilité de diffuser les articles scientifiques sur les plateformes de libre accès permet d'ouvrir la science à tout le monde et à ceux qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter des revues scientifiques. Il existe de nombreux dépôts d'articles scientifiques accessibles gratuitement, tels que Directory of Open Access Journal, qui comptabilise à l'heure actuelle plus de 8 millions de publications, provenant de 130 pays. Ces différents dépôts d'articles ont pour but d'ouvrir la science à tout et de la rendre libre.
Merci Lilian pour cette partie et donc ce que tu abordes en tout dernier, hein, le fait de faire de la science ouverte, de placer les articles en libre accès aussi. Tu as parlé de cette possibilité de placer ces articles en libre accès sur des plateformes. Alors il y a ce que l'on appelle en effet les archives ouvertes, comme HAL, auxquelles on accède par le site hal.archive-ouverte.fr. Et alors on a, donc ça c'est une pratique qui est assez répandue hein, maintenant, de déposer en tant que chercheur ou chercheuse, la version préprint, par exemple, de son, comme tu l'as très bien dit, de son article sur une plateforme comme HAL. Et on a aussi des scientifiques qui ont décidé de publier régulièrement et massivement leurs découvertes scientifiques, leurs réflexions sur leur propre blog aussi, leur propre site web. Plutôt que dans des revues scientifiques. Alors certains font les deux à la fois et d'autres comme par exemple, je pense à Olivier Hirschfeld qui est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Certains comme Olivier Hirschfeld choisissent de publier leurs articles directement sur leur propre blog, leur propre site web. On a donc affordance.info. Et puis, par exemple, on peut être à la fois donc aussi très actif sur les médias sociaux en tant que chercheur et chercheuse. Mais donc, cette alternative, le fait de publier donc ses réflexions et ses découvertes scientifiques sur son propre site web, celui que l'on maintient soi-même, pour quelles raisons est-ce que ça peut être plus avantageux en tant que scientifique de publier voilà, ses travaux sur son propre blog, par exemple?
Tout d'abord, de publier sur son propre blog, ça permet d'être beaucoup plus régulier que d'envoyer régulièrement des articles à des revues afin qu'elles soient corrigées. Après, de plus, il y a de nombreux articles qui sont simplement lus par les revues, même pas forcément au niveau des erreurs, mais juste ça ne conviendrait pas ou ça ne ferait pas assez d'audience, donc elles sont refusées. Donc les publier sur son propre blog, ça permet de publier régulièrement tout ce qu'on veut communiquer Après, ça pose un problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément vérifiées. Et du coup, ça peut créer de la désinformation. Et du coup, des fausses informations pourraient se répandre sur la toile.
Et oui, alors à voir après, en effet, si ces articles-là sont lus sur les blogs et puis s'ils sont relayés sur les médias sociaux, eh bien ça peut, comme vous le disiez plus tôt, créer des débats justement pour vérifier la véracité de ce qui est dit. Et puis à ce moment-là, on a, je pense, la possibilité donc, d'avoir des retours assez rapidement sur la véracité de ce qui est publié sur ces blogs-là. Mais ok, l'argument de la régularité de la publication, de la fréquence, c'est un bon argument. Ok, merci Lilian. On va passer à la toute quatrième partie, toute dernière partie de votre intervention. Mathis, tu vas nous parler, on a beaucoup parlé de la diffusion d'articles scientifiques, tu vas nous parler de la diffusion de contenus scientifiques, alors d'abord par l'oralité, et puis ensuite tu vas nous parler du partage de vidéos à caractère scientifique. Tu es prêt Mathis? C'est à toi.
Tout à fait. Alors bonjour à tous. Après avoir pu constater l'importance des réseaux sociaux dans la diffusion scientifique grâce à l'intervention de mes camarades, je vais désormais mettre en comparaison ce moyen de diffusion avec un autre beaucoup plus ancien, puisqu'il s'agit donc de la diffusion orale. En effet, il existe de nombreuses conférences ou congrès, malgré l'apparition des réseaux sociaux, qui permettent aux scientifiques d'exposer leurs travaux aux yeux des autres scientifiques. Ce genre de communication orale va aussi être écouté par des non-scientifiques, mais qui seront tout de même fortement intéressés car ils auront décidé d'assister à cette conférence. De plus, tout comme les réseaux sociaux le permettent, cette communication scientifique va mener à des dialogues entre le ou les scientifiques et leur public qui ont la possibilité de poser des questions à la fin de la présentation. Il s'agit donc d'un fort avantage comparé aux réseaux sociaux, puisque le discours aura lieu en réel et non à distance, ce qui va permettre de créer des liens humains et permettre aux scientifiques d'être plus proches de leur public. Cependant, une conférence ne pouvant accueillir qu'un nombre limité de spectateurs ne pourra pas toucher autant de personnes que les réseaux sociaux comme Twitter, comme on a vu auparavant. Ainsi, les réseaux sociaux vont certes mener à de nombreuses questions incohérentes, avec par exemple ce qu'on appelle les trolls, donc des questions qui n'ont rien à voir, ou encore des personnes mal informées, mais de par leur fort impact social, ils vont aussi permettre plus de questions pertinentes qui pourront aider par la suite dans les recherches scientifiques. Donc on va pouvoir écouter une conférence faite par Laurence Chloé et Chandru Kumar sur les youtubeurs et la diffusion scientifique.
Donc en fait, moi, j'étais passionnée par les sciences quand j'étais petite, quand j'étais ado, quand j'étais à l'école et tout ça, mais j'avais pas accès à Internet, ça n'existait quasiment pas, quoi. Donc j'allais voir des conférences, comme dans ce genre d'événement. J'allais voir des scientifiques, donc parler à un public. Je lisais des livres, enfin j'en lis toujours, hein, je mets ça au passé, mais j'en lis toujours. Donc les livres, les conférences, les émissions à la radio, les documentaires à la télé. Mais du coup, Internet est arrivé et c'est génial parce que non seulement c'est gratuit et on peut l'avoir chez soi ou même partout maintenant dans les transports en commun, donc je vous apprends rien, hein. Mais ça c'est chouette parce que du coup, on peut avoir accès à un tas de contenus gratuitement, comme on veut, regarder une minute ou deux ou dix si on a le temps, y revenir, repartir en arrière, revoir si on n'a pas compris. Ça c'est vraiment top. Maintenant, ça n'empêche pas, il ne faut pas regarder que des vidéos sur YouTube, ça n'empêche pas de lire, d'aller à des conférences comme ici. Merci d'être venu. Ça n'empêche pas d'écouter des scientifiques à la radio. Donc, en fait, tout se complète. Ce n'est pas parce que YouTube est arrivé, ce n'est pas parce que Internet est arrivé dans nos vies que ça élimine les livres.
Donc voilà, comme énoncé précédemment, avant l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, la diffusion scientifique avait quand même lieu, et ce par de nombreux moyens, comme énoncé dans cette conférence. YouTube, c'est un réseau social extrêmement utilisé, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, selon différentes sources comme le site BDM ou encore Alios. Ainsi, des contenus plus divertissants, comme la réalisation d'une chanson sur la recherche par Chandru Kumar, qui était présent lors de cette conférence, ou encore par des YouTubeurs connus du grand public comme Dr Nozman, vont permettre aux scientifiques de s'adresser et de diffuser des contenus scientifiques à des citoyens plus jeunes. Cependant, un aspect très défavorable avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux est l'apparition massive et la diffusion des fake news. Donc je ne vais pas vous présenter précisément ce que sont les fake news, mais ce sont des fausses informations qui vont connaître une large diffusion, notamment grâce aux réseaux sociaux et par les adolescents et jeunes adultes. Car comme a dit Kevin Carena, les jeunes ont tendance à se fier au nombre de vues, de partages et de likes pour jauger une information. En effet, sur les réseaux sociaux, il est très difficile de différencier un scientifique d'un amateur qui aime les sciences. Un exemple concret est celui de Squeezie en 2019. En effet, ce youtubeur de plus de 17 millions d'abonnés a publié une vidéo en 2018 traitant de la construction des pyramides en Égypte. Cette vidéo a fait plus de 10 millions de vues, mais cependant, quelques jours plus tard, on a pu constater que Squeezie a trouvé ses informations dans un docu-fiction intitulé « La révélation des pyramides » qui est disponible sur YouTube avec près de 3 millions de vues au compteur. Cependant, il s'avère que celui-ci est rempli d'informations tronquées, partielles ou inexactes, ici reprises sans aucun avertissement par Squeezie. Ainsi, ce n'est pas parce qu'un YouTuber ou un influenceur très connu poste des données scientifiques que celles-ci seront vraies. Donc, je vais donc conclure par le fait qu'il faut donc savoir faire preuve d'esprit critique et ne pas confondre scientifique et amateur.
Merci Mathis pour cette quatrième partie. Alors, en effet, hein, dans le cadre du partage de vidéos, en l'occurrence, alors là, tu as très bien montré l'exemple de Squeezie, donc, qui présente une information tirée d'un docu-fiction comme s'il s'agissait de faits avérés. Face à ce phénomène-là, est-ce que tu aurais en tête quelques conseils concrets à donner aux jeunes et aux moins jeunes, hein, tu parlais des plus jeunes, mais aux jeunes et aux moins jeunes, quant au réflexe justement à avoir lorsque l'on va regarder ce type de vidéo, justement pour faire preuve d'esprit critique, c'est-à-dire voilà, pour vérifier la véracité d'un argumentaire qui va être développé par exemple dans une vidéo, qu'est-ce que l'on peut faire lorsque l'on va écouter par exemple Squeezie ou un autre?
Alors oui, bien sûr, comme on nous l'a, je trouve qu'on est beaucoup, on nous l'a beaucoup répété durant notre éducation, mais du coup il faut toujours vérifier les sources, les multiplier pour voir si les données coïncident. Mais comme on peut le voir aussi, c'est pas que les plus jeunes qui sont touchés, parce que Squeezie a été victime du coup de fausses informations, de fake news, alors que c'est un grand youtubeur et il savait qu'il allait être écouté par des millions de personnes. Il faut donc être très vigilant, essayer de voilà, multiplier les sources et toujours faire preuve d'esprit critique. Car les sources peuvent être fausses parfois.
Ouais, mais comme tu le dis, en effet, Mathis, croiser les sources, retrouver, disons, les contenus de référence, hein, les références mobilisées qui sont à la source d'un argumentaire, vérifier, voilà, comment est construit un argumentaire. Mais comme tu l'as très bien dit, en croisant les sources, en vérifiant un argumentaire selon différentes références que l'on va juger donc. Eh bien, digne de confiance. Et donc, on va dire, par exemple, les articles vérifiés par les pairs, comme tu en parlais un petit peu plus tôt, Lilian. Alors, j'ai une question de Nicolas que je veux découvrir avec vous. Peut-on signaler un article, une vidéo ou tout autre contenu public qui contient des informations erronées? Comment avertir de manière efficace les utilisateurs de la plateforme? Comment signaler cela? Alors là, on parle donc d'une forme de régulation et d'esprit critique collectif. Comment on peut faire pour faire cela et donc pour éventuellement avertir les personnes qui consulteront plus tard le contenu que l'on voit qui n'est pas véridique? Et donc, comment peut-on faire ça?
Comme on est sur Internet, on a la possibilité de pouvoir diffuser tout type de contenu. Et donc, par exemple, de faire des préventions sur certains sites. C'est aussi possible d'envoyer à ceux qui ont créé le site, de leur dire qu'il y a peut-être une information qui est mauvaise ou erronée. Et par exemple, pour le cas de Squeezie, il y a une youtubeuse, alors j'ai oublié son nom, je ne sais plus, mais elle a justement refait une vidéo pour montrer que cette vidéo avait des fausses informations. Et ainsi, Squeezie a pu s'excuser par la suite. Et donc la réponse à la vidéo était une autre vidéo. Donc comme avec Internet, on peut diffuser tout type de contenu, ça peut nous permettre de mettre en garde sur certains sites.
Merci Mathis, en effet. Donc un dialogue, vous avez commencé votre présentation en parlant du dialogue entre citoyens et scientifiques. Et en effet, on peut avoir un dialogue sous forme de vidéo, donc, hein, où on a des citoyens, des citoyennes qui vont aussi nous permettre de retrouver un argumentaire véridique, authentique, et d'avoir un débat contradictoire. Ok, entendu. Eh bien, écoutez, merci à tous les quatre pour votre présentation sur l'utilisation des médias sociaux pour de la communication scientifique. On pourra réécouter votre intervention sur la chaîne Peertube WE1, donc sur l'instance Peertube aperi.tube. Venez aussi faire un tour sur librecours.net pour retrouver les supports du cours WE1. Et écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine pour quatre autres présentations émission. Les deux premières animées par Quentin Duchemin. Et puis, on prendra la suite avec d'autres groupes qui vous présenteront leurs travaux de ce semestre. Merci à tous les quatre pour votre travail encore une fois. Merci à Graphite pour l'accueil de ce format d'émission. On vous souhaite une belle soirée à Compiègne ou ailleurs. Et à la semaine prochaine.